L'Institut français de l'éducation et le CAREF organisaient le 16 juin 2025 une journée d'études pour esquisser un bilan, 5 ans après, des effets de la crise sanitaire sur l'éducation. Intitulé « La crise sanitaire à l'école et à l'université, qu'en reste-t-il 5 ans après ?», il s'agit à la fois de constater l'émergence de pratiques provoquées par l'urgence de la crise, mais aussi d'en interroger la pérennité, le succès, comme les limites. Car la crise sanitaire a-t-elle réellement changé les pratiques pédagogiques? A-t-elle touché à l'organisation de l'école? A-t-elle provoqué une redéfinition des parcours d'études? La prise de conscience des urgences, telles que la santé mentale ou les situations de précarité, a-t-elle été partagée et durablement accompagnée? Est-ce que nous avons assisté à une transformation réelle du système éducatif sous le coup de la crise sanitaire? Ou bien à la capacité d'inertie du système pour ne pas remettre en cause les habitudes ou routines en place? Pour répondre à ces questions, Cadécole est allée tendre son micro aux participantes et participants de ces 4 tables rondes organisées lors de cette journée d'études. Dans cet épisode, nous allons aborder la manière dont le Brésil a traversé cette crise sanitaire en prenant l'exemple d'un État du Brésil en particulier. Et pour ce faire, nous accueillons Mayra Mamed, maîtresse de conférence en sociologie au laboratoire CIRCEFT ESCOL à l'INSPE de Créteil, à l'Université Paris-Est Créteil. Bonjour.
Bonjour Florence.
Alors, j'aimerais vous demander, pour commencer, de nous expliquer sur quelle région du Brésil porte votre étude et peut-être de nous présenter rapidement le paysage du système éducatif de cet État.
Alors, justement, parler du Brésil, c'est très difficile parce que c'est un vaste pays qui, de plus est, c'est un pays fédératif. Donc, en fait, tous les États sont autonomes. Il est composé d'entités autonomes, les États comme les municipalités. Chaque entité fédérative a son autonomie. Il y a un système éducatif à part entière. Donc, on ne peut pas parler d'unité du système éducatif brésilien. Et du coup, ce pays qui est à la fois déjà très clivé par les inégalités sociales, parce que les classes plus aisées de la population fréquentent l'école privée, l'école publique étant celle pour les personnes les moins aisées. Donc, en plus de ce clivage social, il y a un clivage territorial très important avec les régions nord et nord-est du Brésil. Grosso modo, si on coupe le Brésil en deux, nord-sud, la partie nord, elle est plus pauvre que la partie sud, qui a été industrialisée plus précocement et qui concentre la richesse du pays. Donc, les États du Nord et du Nord-Est, c'est la région sur laquelle j'ai travaillé, où se situe le Ceará, ce sont les régions les plus pauvres. Et du coup, l'intérêt pour le Ceará, il est apparu de façon antérieure au Covid, pour plein de raisons, mais c'est déjà l'État sur lequel j'avais travaillé au moment de ma thèse, justement pour comprendre dans quelle manière les pratiques enseignantes pouvaient ou pas aboutir à des apprentissages, ou amener les élèves vers les apprentissages. Mais surtout, cet intérêt s'est renforcé au moment de la mise en place d'une politique spécifique qui s'appelle le PAIC, qui est, en brésilien, c'est le programme d'apprentissage au bon âge, qui a été mis en place par l'État du Ceará dans un régime de collaboration très étroit avec les municipalités depuis les débuts des années 2000. C'est une politique qui a d'abord été testée dans une des municipalités qui s'appelle Sobral, à partir de 2002-2004. Et ensuite, il a été étendu à l'ensemble de l'État parce que l'ancien maire de Sobral, il a été élu gouverneur du Ceará. Donc, il a transféré la politique qui avait été testée au niveau local, au niveau de l'État, avec donc ce régime de collaboration très étroit avec les municipalités, qui a très rapidement amélioré les résultats en termes d'apprentissage pour les élèves du réseau public. L'écart entre les élèves du réseau public et les élèves du réseau privés ont été fortement diminués, donc ce qui est un indice de diminution des inégalités. Et par ailleurs, les résultats des élèves du Ceará se sont rapprochés des résultats des élèves des États les plus riches, et notamment de São Paulo. Donc il y a un indice de réduction d'inégalités territoriales aussi. Donc au moment où le Covid est arrivé, on était en train de développer une recherche centrée sur cet État-là pour comprendre ce que caractérisait cette politique. Et en se disant, est-ce que, compte tenu des caractéristiques observées, donc cette forte collaboration, l'accompagnement très étroit des enseignants, avec la mise à disposition de ressources humaines et financières plus importantes en direction des écoles, comment cet État va faire face à une crise qui est une crise globale et qui va se décliner très différemment selon les États brésiliens, selon les villes brésiliennes, parce que tous les systèmes éducatifs ne fonctionnent pas de la même façon. n'ont pas construit des compétences de mise en œuvre politique pour faire face à ces inégalités. Donc, d'où l'intérêt qu'on a eu à ce moment-là pour le CERA. Il y a une deuxième explication aussi pour cet intérêt, c'est que le Brésil, c'est un des pays qui a connu le plus long temps de fermeture des écoles. En fait, grosso modo, on est comme en France, les écoles ont été fermées en mars 2020. Et la rouverture réelle des écoles ne s'est faite qu'en 2022. Donc, les enfants sont restés presque 2 ans sans école. Grosso modo, il y a eu un début de retour à la normalité fin 21 avec des demi-classes qui venaient à l'école par semaine alternée. Donc, une fréquentation très, très limitée encore. Et donc, en fait, nous avons les élèves qui viennent donc des régions les plus précaires. Des classes sociales les plus défavorisées sont restées sans école pendant presque 2 ans, parce que l'école commence, enfin l'année scolaire au Brésil, c'est de mois de février au mois de décembre. Donc en fait, quand on a eu la fermeture au mois de mars, les élèves ils venaient de commencer leur année scolaire et ils ont repris véritablement qu'en 2022 avec une fréquentation normale de l'école. Donc quels effets de ce temps de fermeture très important?
Alors déjà, ce que je vais vous demander, c'est comment pendant la fermeture, pendant ces 2 années, comment est-ce que les enseignants, ils ont tenté ou comment est-ce qu'ils ont fait pour assurer une continuité pédagogique? Est-ce qu'il y a eu une continuité pédagogique pendant ces 2 ans?
Alors, il y a eu une mobilisation très forte des équipes par un système de communication qui s'est mis en place très rapidement, notamment via les messageries instantanées. WhatsApp a été utilisé comme moyen de communication et pour les équipes, et pour on appelle ça les secrétariats, ce sont les ministères locaux, le ministère de l'État, le ministère des municipalités et les équipes des écoles, donc de l'équipe de direction, coordination des écoles envers les enseignants et aussi des enseignants avec les familles. C'est-à-dire que rapidement, dès la première semaine, ils ont créé des groupes dédiés à chaque classe où les enseignants de la classe en question étaient associés. Donc, il y avait une communication directe entre les parents et les enseignants via ces groupes-là. Bien évidemment, nous sommes dans un contexte de précarité, donc tout le monde n'a pas accès nécessairement à Internet, tout le monde n'a pas accès au portable. Les familles qui en avaient un, lorsque le parent sortait travailler dans la journée, le portable n'était pas accessible. Et bien évidemment, l'accès au portable pour des enfants en âge de l'école primaire ou en collège, ça reste quand même très limité en termes d'outils. Il y a une préoccupation très forte de garder le lien, de ne pas perdre le lien avec les élèves, avec les familles. Et ça s'est fait très rapidement parce que contrairement à la France où les écoles n'avaient pas les contacts des parents, en France, je me rappelle, il y avait eu cette question de numéro de téléphone des parents, des adresses mail des parents qui n'étaient pas disponibles dans les écoles. Là-bas, dans les écoles, ils disposaient de ces informations-là.
Ce n'est pas qu'ils ne sont pas disponibles, je pense que c'est qu'il y avait plutôt une consigne de pas passer par... ces canaux-là qui n'étaient pas RGPD.
Dans les écoles, ce n'était pas disponible.
Parce que quand on remplit la fiche scolaire de nos enfants, on fournit ce genre d'informations, donc les écoles les ont. C'est, je pense, plus une histoire de l'égalité.
C'est possible. Mais même les adresses mail, je me rappelle que les enseignantes, elles essaient de remplir des listes avec les contacts des parents parce que ça n'arrivait pas à leur niveau directement. Mais donc là, ces canaux donc, se sont construits très rapidement. Du coup, bien évidemment, ça interpelle parce que ça pose la question RGPD de l'accès aux données, de la vie privée et des enseignants et des familles. Mais ça a été le moyen trouvé rapidement pour pallier le manque d'école, en fait. C'est finalement comment on fait exister l'école alors que l'école n'est plus là. Cette tentative, donc, elle était mise en place, mais amoindrie par l'accès. Au fur et à mesure de la pandémie, l'État a essayé d'acheter des tablettes, acheter des cartes SIM à distribuer à certains élèves de façon ciblée. Par exemple, les élèves de fin de primaire ont eu accès à ce matériel d'abord parce que c'est une année charnière, il fallait quand même les préparer au collège. Mais au départ, il y avait très peu de choses. Et les enseignants ont fait preuve de beaucoup d'inventivité en essayant de construire du matériel imprimé, de se distribuer, parce que les écoles, elles sont restées ouvertes. Enfin, elles étaient fermées aux élèves, mais l'équipe de direction, elle est restée sur place. Et très rapidement aussi, l'État, il a mis en place un système de distribution de paniers alimentaires en substitution de l'alimentation scolaire. Comme ce sont des populations en très grande précarité, le manque d'alimentation scolaire pesait fortement sur la santé des enfants. Et l'État a mis en place ce système de panier d'alimentation qui parfois était le seul recours des familles qui ne pouvaient pas travailler. Donc, le lien avec l'école s'est fait très fortement, à la fois parce qu'il y avait ces groupes WhatsApp qui se sont mis en place et qui ont gardé un lien affectif avec les familles. Il y avait des préconisations pour que les enseignants soient un soutien affectif, émotionnel envers leurs élèves. Et de la part des équipes de direction, il y avait aussi des préconisations pour qu'ils jouent le même rôle envers les enseignants, pour que les gens ne se sentent pas seuls, complètement isolés. Et en même temps, ce système d'aide alimentaire a renforcé l'école comme la porte d'entrée au droit des citoyens. En fait, c'était un interlocuteur important pour le droit. Les écoles ont également été des pôles de vaccination. Donc, en fait, c'était vraiment une porte d'entrée vers l'accès au droit, en fait.
Alors, j'imagine qu'à travers ces conversations WhatsApp et ces groupes, finalement, ce n'était pas tant le fond pédagogique, les exercices à rendre, mais plus l'intérêt de créer du lien et puis que l'école soit un lieu de confiance, en fait, puisque justement, c'est tous ces enjeux-là d'alimentation, etc., qui s'est joué dans l'école.
Aussi, mais la question de ce qu'on appelle au Brésil d'évasion scolaire, c'est toujours un danger très fort, parce qu'en fait, le fait que les enfants partent de l'école guettent toujours parce qu'ils vont rentrer rapidement dans le monde du travail. Il fallait ramener de l'argent à la maison. Ça s'est posé pour les élèves de secondaire. Ils ont commencé à travailler pendant la pandémie parce qu'il fallait quand même ramener de l'argent à la maison. Donc forcément, quand les élèves commencent à travailler, la centralité de l'école, elle perd sa force. Mais il y avait aussi du contenu pédagogique dans les conversations WhatsApp, mais ce que disaient les enseignantes, c'est que, enfin j'ai travaillé surtout sur les enseignantes de primaire, c'est qu'elles se sont énormément investies, parce qu'il y avait des conversations WhatsApp, il y avait aussi les préconisations d'utiliser des cours à distance via Google Meet, c'était la plateforme qui était préconisée par le secrétariat local. Donc elles envoyaient les fiches d'activité à distance. Elle se faisait normalement, il y avait entre 3 et 4 séances d'une heure en primaire, en collège c'était un peu plus, donc d'école à distance d'une durée de 50 minutes, un peu plus par jour. Donc il y avait une espèce de complémentarité de médias, mais qu'elle disait c'est que ça demandait beaucoup d'investissement en termes de matériel, parce que du coup, ils ont dû acheter du matériel pour se filmer, ils ont dû acheter des trépieds, ils ont dû acheter une lumière spécifique, ils ont dû acheter des tableaux blancs et aménager un espace chez eux pour pouvoir faire ces cours à distance. Donc, un très grand investissement financier, un très grand investissement personnel, parce qu'il fallait prendre la main, savoir comment on va faire un cours à distance, comment on s'y prend, qu'est-ce que ça veut dire la dimension technique, mais aussi la dimension pédagogique, qu'est-ce qu'on doit favoriser en termes de séances, etc. Et qui finalement avait très peu de retours, parce que les élèves, ils retournaient très peu ce qu'ils faisaient. Ils ne suivaient pas tant que ça. Ils disent quand même qu'il y a une première année de la pandémie et une deuxième année. C'est-à-dire qu'en deuxième année, il y a une prise de conscience plus importante des familles que les élèves ne pouvaient pas rater une deuxième année scolaire. Donc, il y a eu un investissement plus important et il y a eu un renforcement aussi de l'usage du papier, donc du matériel imprimé qui était distribué aux familles et retourné à l'école, presque comme une monnaie de change au moment de la distribution de paniers d'alimentation. C'est-à-dire il y avait le panier qui partait avec les activités et quand les familles venaient prendre le deuxième panier, elles donnaient les activités du mois précédent. Mais du coup, ce lien, il est resté très fort et ils ont mis en place au moment de la reprise. J'anticipe un peu sur la suite.
Oui, justement. Je voulais vous demander donc comment s'est passé le retour en classe après ces deux années hors de l'école sans un apprentissage scolaire régulier. Est-ce que le niveau des élèves à ce moment-là, il a été évalué? Et si oui, est-ce que c'était par les politiques avec des évaluations nationales, enfin de l'État, ou bien par les enseignants tout simplement?
Il y a eu plusieurs niveaux d'évaluation. Même pendant la pandémie, les enseignants ont continué à évaluer parce qu'ils ont l'habitude d'évaluer leurs élèves. Ils ont pris cette habitude parce que ça fait partie des préconisations de la politique. Au moment de la reprise, là aussi, on a presque une caractérisation en deux moments. Lors de la reprise avec des demi-classes alternées, lorsqu'on discutait avec les enseignants, il y avait un très fort découragement qui était lié à la prise de conscience de l'ampleur du retard qui avait été pris par les élèves, surtout pour des enseignants qui, du coup, s'étaient habitués à avoir des élèves qui étaient bien meilleurs que ceux à quoi ils avaient l'habitude auparavant. Donc, il y a eu cette espèce de découragement, beaucoup d'appréhension aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que les enseignants sont des individus comme tout le monde dans la société, qu'ils ont traversé des périodes de peur, de maladie, de deuil, de découragement pendant la pandémie, d'isolement, bien évidemment. Du coup, le retour à l'école normale, il a coïncidé avec la mise en disponibilité des vaccins. Mais c'était lié à beaucoup d'appréhension encore. Donc, il y avait de l'appréhension de la part des enseignants, de l'appréhension de la part des élèves, avec tout un protocole
de sécurité,
avec les masques, avec l'alcool à disposition en permanence. Donc, une ambiance un peu bizarre pour l'école, quand même. Et donc, le discours des enseignants à ce moment-là, c'est un discours un peu découragé. Quand on va les voir, c'est « Ah, mais ils sont vraiment très loin de ce qu'ils étaient capables de faire avant. On a des élèves en troisième année de primaire qui n'ont pas appris à lire et écrire. Bah, » Forcément, un élève qui rentre en primaire et qui rate deux années de scolarité, bah, il n'a pas appris à lire et écrire. Donc, des enseignants de troisième année qui se retrouvaient à se dire « Mais je suis obligée d'alphabétiser mes élèves. » Alors qu'avant, ils arrivaient, ils savaient lire et écrire déjà. Donc, un changement de standard, d'exigence et une adaptation des priorités pour les enseignants. Et ce qu'on observe quand on vient la deuxième année, donc l'année où le retour à la normalité était là, c'est un changement de discours très important des enseignants parce qu'ils ne niaient pas ces difficultés. Elles étaient toujours présentes dans le discours, mais c'était doublé d'une reconnaissance de leur capacité à les dépasser. Ils disaient, voilà, les élèves ont pris du retard, ils ont des difficultés, mais on va les dépasser parce qu'on l'a déjà fait. C'est-à-dire l'expérience précédente d'une augmentation du niveau des élèves, d'une diminution des inégalités, servait de preuve que c'était possible de dépasser ce défi. Et les évaluations qui ont été faites, donc pour revenir à votre question, juste après la pandémie, donc en 2021, il y a des évaluations nationales qui ont été faites, il y a des évaluations de l'État qui ont été faites. Et l'évaluation de l'État qui a été faite, elle a été faite en début et en fin d'année, pour avoir une évaluation diagnostique en début d'année et pouvoir comparer en fin d'année. Et il y a des évaluations qui sont faites tous les deux ans ensuite. Ce qu'on observe, c'est que oui, il y a une augmentation très importante des inégalités à ce moment-là pour le CRA, c'est-à-dire qu'il y a une décroissance du niveau d'apprentissage, mais que c'est rapidement rattrapé. Dès 2023, en fait, cet écart il est complètement réabsorbé. Donc, ce sont des choses en sociologie qu'on n'a pas souvent l'habitude d'étudier, c'est-à-dire un système éducatif qui arrive à lutter réellement contre les inégalités. Et ce qu'on a observé, du coup, ce discours des enseignants qui était plus positif, il était accompagné d'un ensemble de mesures dans les écoles qui voyaient que leur investissement pour cette reprise ne pesait pas uniquement sur leurs épaules.
C'est-à-dire que les politiques ont soutenu. Ils
ont mis en place des ressources supplémentaires à la fois matérielles et humaines. Il y a eu des agents dont le rôle était d'aller chercher les élèves qui n'étaient pas revenus à l'école, donc avec une surveillance de la fréquentation scolaire. Ils ont mis des tuteurs pour travailler avec les élèves individuellement et ils ont mis en place également des groupes de soutien scolaire, un petit groupe à destination des élèves qui étaient les plus en difficulté. Donc forcément, cet ensemble de mesures contribue à ce que l'écart entre les élèves se réduise un petit peu et que les enseignants puissent à nouveau fonctionner dans les classes, entre guillemets, de façon normale. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire leur classe en s'adaptant certes au retard pris par les élèves, mais ce retard était petit à petit dépassé parce qu'ils n'étaient pas seuls à lutter contre ces difficultés d'apprentissage.
Donc en fait, il y a eu des mesures exceptionnelles et temporaires, j'imagine, de crise pendant quoi, un an, deux ans ?
C'est ça qui est intéressant parce que dans le cadre du système éducatif brésilien et en particulier dans cet état-là, il fonctionne, je ne dirais pas qu'il fonctionne par des mesures temporaires, mais il fonctionne plutôt par l'ajout de petites touches qui, lorsqu'elles sont perçues comme pouvant améliorer l'apprentissage des élèves, elles sont rajoutées à la politique. Quand on étudie la politique dès son départ, au départ, ils focalisaient leur attention uniquement sur les deux premières années du primaire parce qu'ils s'étaient rendus compte que 40% des élèves quittaient la deuxième année du primaire sans savoir lire et écrire. Donc, ils se sont dit, ce n'est pas possible. Un élève qui n'a pas appris à lire et écrire en équivalent CE1, bah, il va cumuler du retard toute sa scolarité. Donc, ils ont dit, là, on va mettre la focale sur ces deux premières années de façon à résoudre ce problème. Ensuite, ils ont élargi à l'ensemble de l'école primaire. Et ensuite, ils ont élargi à l'ensemble du collège. Donc, en fait, petit à petit, ils vont par des aménagements successifs. Donc, par exemple, la question des agents qui vont chercher les élèves lorsqu'ils ne sont pas là, ils sont restés dans l'école. Donc, c'est des moyens supplémentaires. En 2023, là, en ce moment, je ne sais pas encore si les tuteurs sont encore présents, mais ils sont restés longtemps en place.
Donc, c'était plutôt pérenne que temporaire.
Oui, d'ailleurs. C'est plutôt pérenne que temporaire. Et c'est dans une idée de rajouter des choses qui vont aider les équipes à mieux faire leur travail.
C'est une gestion des politiques éducatives qui est très agile et flexible, en fait. Ils sont vraiment dans l'ajustement par rapport à l'évaluation.
Et à l'écoute de ce qui vient du terrain. Il y a une autre caractéristique de cette politique qui est très intéressante, c'est que d'une année sur l'autre, quand on revient pour faire du terrain, on identifie des personnes qui étaient dans les écoles, qui ont pris des postes de plus grande responsabilité de gestion. Donc, on voit que la gestion, elle n'est pas composée de personnes qui ne savent pas du tout ce qui se passe dans les écoles, mais au contraire de personnes qui viennent des écoles, qui ont montré une capacité spécifique à relever des défis, à résoudre des problèmes, et qu'ensuite, cette reconnaissance est reconnue par une montée en responsabilité. Et qui, du coup, garde un lien très fort avec les écoles, avec la réalité du terrain. Donc, il y a un ajustement continu avec un système de communication ascendant et descendant qui est très fort.
On va doucement vers la fin de l'interview. Je vous pose une question, puis si vous, après, vous avez encore des choses à rajouter, vous n'hésitez pas. J'aurais voulu vous demander, comme vous avez une connaissance assez fine de ce qui a été mis en place dans cet État du Brésil, et que j'imagine que vous savez aussi comment ça s'est passé en France, la continuité pédagogique, et puis voilà, la gestion de la crise dans le système éducatif français. Est-ce que, en dehors de ce dont vous venez de nous parler là, sur la comparaison un petit peu au niveau des politiques éducatives, est-ce qu'il y a un autre point de comparaison que vous aimeriez soulever, qui vous a un peu marqué, frappé, entre la France et la gestion de la crise Covid avec l'école dans l'État du Brésil que vous avez étudié?
Je pense que la durée n'était pas la même, comme j'ai dit, et que du coup, les enseignants ont vraiment été confrontés au besoin de s'adapter. C'est-à-dire qu'avec 2 années sans école normale, il fallait quand même produire des choses, penser à des aménagements, penser à des nouvelles façons de faire école sans école. Moi, ce qui me frappe, c'est d'une part, bien évidemment, les innovations technologiques ont été nombreuses. Plus on monte dans la scolarité, plus c'est facile, parce qu'avec des élèves plus âgés, c'est plus facile de passer par ces moyens-là. Mais avec les élèves de primaire, finalement, on s'est rendu compte qu'on est venu à des choses très basiques, le papier, l'écrit, qui était une façon de garder le lien, première chose. Deuxième chose, c'est que ça montre bien que l'école, c'est un lieu d'apprentissage, c'est une institution dont la spécificité, c'est de faire apprendre les élèves, mais c'est aussi un lieu de socialisation, un lieu où les élèves ont besoin d'exister, de vivre ensemble, de se construire en tant qu'individu. Et ce qu'on a perçu là-bas, c'est que ces liens qui ont été un peu effrités se sont reconstitués très rapidement, avec une réelle joie de revenir à l'école pour les élèves. En fait, j'ai des élèves, en juin 2022, j'y étais, et j'ai des élèves qui me disaient « Ah, c'est génial de venir à l'école », et un vrai soulagement de l'existence de l'école. Et finalement, c'est un peu ça que je tire de... Enfin, il y a deux choses importantes que je tire de cette recherche. C'est d'une part, on ne peut pas se passer de l'école. Il y a une réelle fonction sociale de l'école pour tout le monde, pour les élèves. Et oui, bien évidemment, la dimension technologique, informatique est importante. Le papier est une technologie aussi, donc on peut passer par là pour combler de façon ponctuelle, mais ça ne substitue pas ce qui se passe dans une salle de classe quand il y a des élèves et des enseignants qui interagissent, qu'il y a une équipe qui est là. Première chose. Et la deuxième chose, c'est que finalement, on se disait qu'avec ce temps très long de non-école, que le retour allait se faire très difficilement. Et finalement, pas tant que ça. Les enseignants disaient qu'au retour, il fallait remettre les choses en place, même la routine de comment on se tient dans une classe, comment on apprend à lever la main, etc. Mais ces choses-là se sont mises en place assez rapidement. On aurait pu penser qu'en France, c'était le cas parce que la période de confinement pour l'école, finalement, était courte. On a eu 49 jours de fermeture totale des écoles entre mars et juin. 49 jours d'école, je précise. Mais ce dont on se rend compte, c'est justement là-bas, malgré cette fermeture très longue, bah, le retour à la normalité revient assez rapidement. D'une part, parce que l'école est cette institution nécessaire dont je parlais, mais d'autre part aussi parce qu'il y a eu cet investissement et que ce retour à la normale n'a pas pesé uniquement sur le dos des enseignants. C'était une volonté politique de mettre en place, de combler le retard qui a été pris pendant cette période-là.
Merci Mahira Mahmed d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Vous venez d'écouter Cas d'école, la web radio de l'Institut français de l'éducation, dans un hors-série consacré à la journée d'études, intitulée « La crise sanitaire à l'école et à l'université, qu'en reste-t-il 5 ans après ?» Vous pouvez écouter les autres épisodes de cette série sur notre site Cas d'école, K-A-D-E-K-O-L, et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.